Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oh là là ! Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, 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 ça y est, j'y suis, ça y est, j'ai compris. Bien sûr, c'est l'heure de l'émission. Où avais-je la tête ? C'est tout simplement l'heure de l'émission. Et je sais que tout va bien se dérouler, que nous allons découvrir plein de choses aujourd'hui, comme chaque semaine, j'en suis convaincu. Françoise Pitras, c'est quoi votre fleur préférée ?
Ma fleur préférée, c'est une hémérocale orange. C'est une espèce de lys, en fait, mais qui est de la couleur orange.
Alors, je sais que vous êtes jardinière. C'est votre truc. Je sais que vous aimez le jardinage.
Alors, pas du tout. Je ne suis pas jardinière et j'aime moyennement le jardinage, d'autant plus qu'avec le grand âge, je ne peux plus me baisser. Donc, je ne peux plus jardiner vraiment. Mais par contre, on est ici dans un jardin partagé et dans un jardin partagé, on y fait énormément de choses.
On va y venir justement, ça tombe bien, parce que je sais que c'est le partage, votre truc, vous venez de nous le dire. Allez, je dis pas de bêtises ce coup-ci.
Donc on y fait énormément de choses, mais très peu finalement de jardinage vraiment.
Eh bien on va voir ça avant d'aller plus loin, Françoise Pitras, parce que j'ai une bonne nouvelle, on a 56 minutes devant nous, vous rendez compte, 56 minutes pour parler du sujet qui nous anime et qui fait que l'objet de cette rencontre entre nous deux. Et cette nouvelle, eh bien c'est une tradition à ce micro, c'est le cas pour chaque invité qui accepte de nous accorder un entretien. Vous voici donc dès cet instant notre nouvelle étincelle dans la ville. Et oui, Françoise, vous formez un collectif ici qui vous entoure. Eh bien, ce seront aussi nos étincelles du jour, une véritable équipe. Allez, on va entrer gentiment dans le sujet. Et là où nous trouvons, bah, c'est très particulier. C'est sur Allegre FM, bien sûr. Allez, en route vers de nouvelles aventures.
Bonjour, vous savez où vous êtes ? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Au bip, vous laissez votre message.
Joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à tous nos auditeurs, nos auditrices. Bienvenue dans l'étincelle dans la ville sur Allegre FM. Ravi de vous retrouver à mes côtés, Françoise Pitras. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Et c'est depuis le 4 rue des Récollets, dans le 10e arrondissement de Paris, sur le site de l'ancien couvent des Récollets, Square Villemain, qui est un endroit très particulier, que nous réalisons cette émission grâce aux prouesses de la régie technique Final Son d'Aligre. J'en profite d'ailleurs pour saluer l'équipe technique parisienne d'Aligre. Bonjour à tous, comment ça va la technique ? Tout va bien ?
Tout va bien pour nous, parfaitement, merci à toi.
Ça va, vous êtes bien calés, la liaison est bonne, le son est bon, tout vous convient ?
Tout est parfait, on est très très bien installés, tout est parfait, merci.
Magnifique. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous, Françoise Pitras, d'un phénomène qui passionne la société tout entière. C'est une lame de fond. Nous allons nous intéresser tout simplement et tout particulièrement aux poumons des villes, les jardins et toute cette végétalisation indispensable dont nous raffolons tous dans nos grandes métropoles. Paris n'y échappe pas, comme de nombreuses autres métropoles de nos territoires, et c'est tant mieux. Ce besoin de végétal, c'est nécessaire. et c'est sur toute la Terre, dans ce monde trop bétonné, qui montre bien que tous ces poumons sont indispensables et ils ont tendance à se développer. Vous en êtes l'exemple avec votre association. On va entrer dans le détail. Et cela nous apporte à tous des équilibres personnels. Tout à l'heure, on s'étonnait de voir quelqu'un qui était arrivé tout triste, Françoise, et puis tout d'un coup, c'était le sourire aux lèvres. Vous allez nous le raconter. Des poumons verts, il y en a des très grands, des naturels, malheureusement trop dégradés, comme la forêt amazonienne ou la grande forêt française. Et puis, il y en a des petits, des tout petits. Bien sûr, ces derniers, à leur échelle, représentent aussi une place très importante, même si par leur taille, ils restent modestes, et notamment dans nos villes. Et c'est donc depuis un petit coin de verdure dans Paris, dont nous allons parler aujourd'hui avec vous, Françoise Pitras, que nous réalisons cette émission, peut-être pour nous rappeler que nous nous intéressons tous à la nature et aussi à son dérèglement climatique, alors que l'urbanisation galopante tente d'être maîtrisée. Nous vivons tout ceci joyeusement ici, dans ce petit parc. Vous allez nous raconter et nous allons voir comment vous partagez un jardin qui est dans un jardin. Alors, vous allez nous raconter tout ça. Et puis, alors, je vous ai chambré. Je le savais que vous n'étiez pas une jardinière, mais dites-moi, vous avez quand même planté des graines.
Ah oui, bien sûr. Au tout début, en 2005, au tout début de cette expérience, quand la ville de Paris nous a livré le terrain tout vierge, j'ai rapporté de ma campagne, du plateau ardéchois, des framboisiers sauvages, de la fougère, enfin des choses qui étaient sauvages, donc très résistantes, de façon à les planter dans ce petit coin de Paris.
Dans ce petit coin de Paris, vous le dites bien, effectivement, car on s'intéresse avec vous à ce jardin d'agrément, mais il y a aussi les jardins qui produisent des bons légumes. Bon, aujourd'hui, vous allez nous raconter justement ce petit jardinet dans lequel ce petit jardinet qui est quand même grand, hein, 300 mètres carrés, hein, c'est quand même énorme. Et comment votre collectif fonctionne sur le site du couvent des Récollets, je l'ai appelé comme ça, où vous maniez le râteau et l'arrosage. Hein. Alors, bien sûr, ce collectif, il a besoin de mains, il a besoin d'un jardin et il est dans la ville. Et donc, votre association s'appelle Ville Main Jardin et vous en faites partie. Et vous allez nous raconter. Alors, c'est du boulot d'entretenir un jardin partagé ?
Ah oui, oui, oui. Alors, c'est un très, très gros boulot. Il faut savoir que ça demande beaucoup de temps et d'énergie à tous ceux qui s'engagent dans cette expérience, mais que c'est une expérience extrêmement productive, extrêmement riche en pédagogie, en formation tous azimuts, en fabrication de projets collectifs. Donc, c'est très enrichissant pour tous ceux qui s'y engagent.
Alors, partagez entre vous dans votre association et partagez aussi. Le partage, c'est votre truc, je l'ai dit en début d'émission, parce que beaucoup de gens viennent vous rendre visite. Alors, ce jardin partagé, comment il a démarré ?
Alors, il a démarré en 2005. Il était le premier. Alors, il faut dire que c'est le premier jardin partagé à ouvrir dans un jardin public de la ville de Paris. C'est-à-dire que la ville de Paris était disposée à laisser un petit espace des squares publics si les habitants suffisamment motivés se mettaient en association de façon à pouvoir contractualiser le prêt gracieux du terrain. Et donc, il fallait trouver des habitants suffisamment motivés pour contribuer à cette expérience novatrice. Et c'est lorsque les Verts sont arrivés à la ville de Paris que les Verts ont poussé cette expérience possible, on va dire. Et dans le 10e, effectivement, une équipe s'était formée de préfiguration au cas où. Et donc, nous avons travaillé pendant 6 mois comme un comité de pilotage, on va dire, avec les classes d'école qui étaient très demandeuses de pouvoir venir dans un jardin, jardiner avec les classes, avec les associations médico-sociales du quartier qui voulaient aussi pouvoir bénéficier de cet accueil et mettre la venue au jardin dans leur projet thérapeutique. Suivant les publics auxquels elles s'adressaient, c'était pour elles très important, ne serait-ce que de sortir de leur espace de sécurité.
Françoise Pitras, c'est quoi un projet thérapeutique dans les jardins ?
Alors, ces associations médico-sociales avaient remarqué, mais c'était très intuitif de la part des personnels soignants, que la venue dans un jardin pouvait être un grand bénéfice à la fois physique, mais aussi psychologique ou mental, pour les populations dont elles s'occupaient, soit des ados en grande détresse, soit des personnes en très grande difficulté psychologique, soit des personnes en très grande difficulté physique, fauteuil roulant, etc.
Est-ce que le jardin, c'est un médicament, Françoise Pitras ?
Alors, maintenant, c'est relativement documenté par la science au niveau international. Et donc, effectivement, on sait qu'on en avait l'intuition. Bien sûr, ça fait du bien d'aller au jardin, voilà. Mais les chercheurs ont prouvé qu'effectivement, la venue dans un jardin, le jardinage lui-même, mais même juste profiter de l'air, sentir que le temps passe, qu'il fait soleil ou qu'il pleut, etc., est très bénéfique pour le physique et pour le mental.
Nous l'avons tous bien compris, c'est bénéfique, donc n'hésitez pas. Et aller dans les jardins, ça sera le mot d'ordre de cette émission aujourd'hui. D'ailleurs, on est dans un jardin, on va aller se balader, vous allez nous raconter comment ça se présente. Alors, vous faites partie de ce collectif qui anime ce jardin partagé. Je le reprécise, ce lieu est entretenu par vos soins pour le plaisir de nos yeux. Et pour paraphraser les mots d'un grand militant de la lutte contre la pauvreté, l'abbé Pierre, je cite, « Dans votre jardin, je l'ai un peu adapté, hein, on y trouve de tout si l'on garde les yeux ouverts. » Ça vous convient ?
Exactement, et je dirais même que non seulement c'est le plaisir des yeux, mais le plaisir des cinq sens, parce que quand les classes d'école viennent, on leur fait sentir les odeurs, on leur fait sentir les différences, parce qu'on ne plante pas qu'une seule variété de menthe, on plante plusieurs variétés de menthe, et donc les enfants qui sont tout jeunes peuvent sentir ces différences, ils ne sont pas encore tous complètement enrhumé. Et donc, le plaisir de l'odorat, le plaisir du toucher. On peut toucher certaines feuilles qu'on connaît et on ne touche pas celles qu'on ne connaît pas parce que ça risque de piquer. Il y a des orties dans ce jardin et ça aussi, c'est très pédagogique. Le plaisir, voilà, les plaisirs des cinq sens quoi, qu'on retrouve dans n'importe quel jardin, cultivé ou non.
Alors, de quoi parle-t-on finalement, Françoise Pitras ? On parle de jardin depuis le début de cette émission et on va en parler jusqu'à la fin, de jardins communautaires partagés, associatifs ou encore collectifs. Ce sont principalement des jardins d'agrément, voire potagers, ruraux ou urbains, urbains dans notre cas aujourd'hui, gérés en commun par un groupe d'habitants. Précisons que la dénomination de jardin partagé est celle choisie par l'État français depuis 2014. Voilà, l'État français dit jardin partagé. Donc c'est animé collectivement et ils ont pour objet de développer. Alors là, c'est très important et vous y êtes très attaché. Quand on a préparé cette émission, vous m'en avez longuement parlé et vous m'en avez reparlé encore tout à l'heure, avant qu'on démarre. Ça a pour objet de développer des liens sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles, éducatives, accessibles au public, à tous les publics. Ici, on n'est pas n'importe où, c'est ça qui se passe ici.
Exactement, l'accessibilité au public est très très importante pour les jardins partagés, c'est même toute la différence avec les jardins familiaux ou les jardins ouvriers, qui sont les grands ancêtres des jardins partagés. Et donc, où chacun avait une parcelle suffisamment grande et qui était cultivée par la famille pour pouvoir se nourrir. Ici, c'est la suite de cette histoire dans la grande histoire des jardins, c'est-à-dire c'est des parcelles qui sont effectivement octroyées à des associations, donc à des collectifs, pour pouvoir y faire absolument ce qu'on veut. Mais par contre, ça ne permet pas ni de manger, ni même de se nourrir un peu, c'est juste des activités sociales, des activités culturelles, des activités intergénérationnelles, ce qui est très important aussi dans un quartier. Et donc, c'est l'accessibilité au public qui est mise en avant par les collectivités territoriales. Et justement, c'est pour ces activités-là et non pas pour le jardinage que les collectivités territoriales y ont un intérêt.
On l'a bien compris, vous n'êtes pas des agricultrices, des agriculteurs, mais vous nourrissez quand même quelque chose de très important, Françoise Pitras, l'esprit.
Ah oui, alors là par contre, oui, nous sommes un lieu d'expérimentation, un lieu d'éducation populaire extrêmement important, tous azimuts, c'est-à-dire qu'on y apprend bien sûr des techniques, hein, des savoir-faire de jardinage, bien sûr, d'abord, mais aussi le nom des plantes, la diversité des espèces, que de la diversité des espèces plantées dépendent la diversité des insectes qu'on va y trouver, que de la diversité des insectes dépendent la diversité des oiseaux qu'on va y trouver, et que donc il n'y a pas qu'une espèce de romarin, comme je le disais tout à l'heure, il y a X espèces de romarin, tout comme chaque humain est différent d'un autre humain. Et c'est sur cette diversité-là que nous insistons énormément depuis les débuts de l'association en 2005, pour faire que dans un quartier, dans un arrondissement, toutes les populations puissent cohabiter ensemble, en se disant que la diversité est une richesse et que c'est cette richesse qu'il faut protéger.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'est cette richesse qu'il faut protéger. Vous êtes intarissable sur le sujet et vous avez bien raison. Alors, permettez-moi de faire un tout petit retour en arrière historique. Alors, ce jardin où nous sommes, situé à Paris dans le 10e arrondissement, est sur l'ancien site du couvent des Récollets, un bel exemple de l'architecture religieuse du 17e, 18e siècle. Longtemps utilisé comme hôpital militaire, cet ensemble immobilier est aujourd'hui géré par la ville de Paris et regroupe une résidence hôtelière dédiée aux chercheurs, aux artistes, avec des espaces pour des manifestations culturelles et où est installé aussi l'Ordre des architectes d'Île-de-France, voilà, et la Maison de l'architecture. Alors, beaucoup de choses dans ce couvent des Récollets qui donne directement sur un square qu'on appelle le square Villemain, lui-même qui abrite votre parcelle que vous avez en gestion, donc avec votre association Ville, Main et Jardin.
Exactement, et donc... disons que nous sommes riches de toute cette histoire parce que le jardin Villemain, donc du nom du médecin militaire qui a occupé le couvent des Récollets, c'était un hôpital militaire, ça a duré un certain nombre d'années. Ce médecin Villemain était chargé de la tuberculose à son époque. Et donc, l'hôpital possédait un grand parc. Il y a encore des arbres historiques qui datent de ce parc-là, mais n'allaient pas jusqu'au canal. Et donc, quand les parcelles le long du canal ont été libérées de l'emprise artisanale qui longeait le canal pour des raisons de facilité économique, les marchandises circulaient par les canaux, quand le foncier est devenu à la mode et que les promoteurs se sont jetés sur ces parcelles à la place du petit artisanat qu'elle recouvrait, de grandes luttes d'habitants et particulièrement dans le 10e, trois associations de quartier se sont mobilisées longuement sur des mois, certaines sur des années, pour empêcher les bulldozers d'accéder à ces parcelles et de pouvoir construire le long du canal des immeubles qui se seraient évidemment vendus très très cher à la découpe. Et donc, et pour que la ville de Paris puisse préempter les parcelles et augmenter le seul grand jardin public du 10e à l'époque, qui était le jardin Villemain. Cette lutte, il faut le dire, au bout de X mois, a été victorieuse. Et donc, le promoteur a laissé tomber et la ville de Paris a augmenté le jardin de toute la parcelle allant jusqu'au canal. Et il y a mis temporairement une grande pelouse en se disant que si jamais il se passait autre chose, bah, c'était pas trop grave, on n'avait pas planté d'arbres, etc. Donc voilà. Mais il ne s'est rien passé, la pelouse existe encore, des arbres ont été plantés, des massifs, etc. Et c'est sur cette pelouse qu'au beau jour, énormément de gens viennent pique-niquer, s'allonger, profiter du jardin, et voilà. Ça, c'était le premier impact de lutte d'habitants sur ce jardin et qui a constitué quand même un grand agrandissement. Et le deuxième agrandissement a eu lieu plusieurs années après. C'est celui de la parcelle sur laquelle se trouve le jardin partagé. Là aussi, un immeuble a été tombé le long de la rue des Récollets. Et donc, c'était une lutte plus compliquée parce que là, c'était pour y faire un immeuble de la PHP pour loger les infirmières de l'hôpital Saint-Louis, pas loin. Nous avons trois hôpitaux dans le 10e. Et donc, comme tout le monde le sait maintenant depuis l'épidémie, les infirmières viennent de loin. et on avait dans l'idée de faire des logements plus accessibles dans Paris pour le personnel soignant. Donc là, la lutte, enfin, les habitants du 10e ont quand même repris la lutte pour agrandir encore le jardin Villemain. C'est quand même plus compliqué de mettre un jardin à la place de logement d'infirmière qu'un jardin à la place de promoteur. Mais par le biais du fait que Delanoë était arrivé à la ville de Paris, que les Verts étaient arrivés à la ville de Paris, etc., que la demande de jardin des habitants devenait de plus en plus forte et qu'on est quand même dans un espace qui est fortement densifié, le 10e a des endroits qui sont plus denses que la ville de Tokyo. Donc, le besoin est pas, enfin, a passé, disons, au premier plan. Et donc, on a récupéré cette parcelle. Et là, donc, le comité de pilotage qui s'était mis en place pour faire d'un petit bout de ce qui venait d'être récupéré, un jardin partagé, a été victorieux. Et donc, la ville de Paris a décidé de nous confier les 300 mètres carrés dont vous parliez tout à l'heure, par convention, à titre gracieux, en faisant faire un dessin par un paysagiste de la ville de Paris, dont j'ai oublié le nom.
C'est pas grave, Françoise. D'ailleurs, je vous coupe là, deux secondes. On va aller le visiter, ce petit parc, parce qu'il y a plusieurs secteurs dans votre jardin partagé. Vous m'avez montré les plans. Alors, je voudrais quand même, pour que les auditeurs comprennent où ça se passe et où nous sommes, même si je vous ai donné une adresse, c'est situé à côté de la gare du Nord et de l'Est. Voilà. Alors, attendez, je remets le micro devant votre bouche. Alors, précisez-nous, Françoise.
Alors, le jardin Villemain se situe entre la gare de l'Est et le canal Saint-Martin. Et le jardin partagé à l'intérieur du jardin Villemain se situe côté rue des Récollets, tout proche du canal Saint-Martin.
Voilà. Et l'on a vu, vous nous l'avez raconté, grâce à des valeureux défenseurs, la menace de urbanisation de ce terrain n'a pas eu lieu. Et pour notre plus grand bien à tous, même si on pense à nos infirmières qui, à mon avis, ont dû quand même trouver des logements.
Oui, effectivement, on s'est aussi débrouillé pour ça. Il faut traiter tous les sujets dans un quartier et effectivement, on s'en est occupé, quoi.
Françoise Pitras, quel effet ça fait d'être au milieu de Paris, d'avoir en gestion un jardin avec, bon, alors, on ne va pas vous appeler des cultivateurs, des agriculteurs, on va vous appeler des jardiniers, des amateurs de verdure, de végétaux. Ça fait quel effet d'être ici pour vous ?
Alors, c'est vrai que ce lieu est un lieu très important, non seulement dans le quartier, dans l'arrondissement, mais même pour toute la ville de Paris. Justement par l'histoire de ce lieu, parce que justement c'était le premier à se créer, et que de nos jours, chaque fois que la ville de Paris crée un jardin public, donc dans des espaces qui sont de plus en plus réduits, hein, et même si c'est un tout petit jardin public, la ville de Paris réserve un tout petit bout de ce petit bout pour en faire ce qu'ils appellent maintenant un jardin partageable, au cas où des habitants se motiveraient pour pouvoir cultiver cette parcelle et donc, à ce moment-là, en faire un jardin partagé.
Et on vient vous voir pour vous demander conseil. Vous êtes sollicité puisque vous êtes des pionniers dans ce domaine à Paris.
Voilà, exactement. Et donc, on explique tout ce qui a été expérimenté. On explique ce qui a marché et ce qui a échoué. Et donc, on fait gagner énormément de temps aux nouvelles équipes d'habitants, aux nouvelles équipes de services techniques des villes, aux nouveaux élus locaux aussi, quand ils veulent savoir comment ça marche, parce qu'on sait expliquer voilà, ce qui a permis le succès de cette expérience, les écueils, les choses qu'il faut éviter à tout prix, voilà, parce que ça ne marche pas, on les a déjà testées pour vous, et voilà.
C'est le retour d'expérience depuis 2004, date de création de votre association.
2005.
Pardonnez-moi, attendez, je ramène le micro près de votre bouche.
2005.
Voilà, excusez-moi, je dis des âneries de temps en temps à ce micro. Voilà. En tout cas, si je vous ai rencontré, et c'est aussi, je voudrais aussi l'évoquer, c'est parce qu'il y a une manifestation très importante tous les ans, ça fait un paquet d'années que ça existe, ça s'appelle Rendez-vous au jardin. Quoi de plus naturel, puisque nous sommes dans un jardin partagé dont vous avez la gestion. Alors, racontez-nous.
Alors, Rendez-vous au jardin, c'est une manifestation qui a été créée par le ministère de la Culture, essentiellement pour que les propriétaires de jardins historiques ouvrent leur jardin au moins un week-end par an au grand public. Justement, là aussi, l'accessibilité du public est une composante de l'action publique. Effectivement, il est important que même des endroits privés puissent être accessibles au grand public au moins un week-end de l'année. C'est pourquoi le ministère de la Culture a créé cette manifestation qui s'appelle « Rendez-vous au jardin » et qui, aujourd'hui, paradoxalement, intéresse toutes sortes de jardins. Donc, bien sûr, les jardins historiques du début de la manifestation, mais aussi certains jardins ouvriers qui participent ou certains jardins familiaux qui se disent « Oh, bah oui, c'est le rendez-vous au jardin, donc on va faire des animations pour cette occasion ». Et donc, des jardins partagés comme le nôtre qui aussi participent à cette manifestation, qui est toujours très agréable et qui est tous les ans sur un thème différent.
Alors, justement, ces jardins que vous venez d'évoquer, j'ai même cru comprendre qu'il y avait des jardins privés, des gens qui ouvrent leurs portes, qui sont à leur propre jardin. Ça se passe dans la France entière, même en Europe. Et c'est des milliers de parcs et jardins qui sont ouverts. Et bien sûr, Françoise Pitras, votre jardin, il fait partie de cette manifestation depuis longtemps. Alors cette année, ça a lieu quand ? Et c'est quoi le thème ?
Alors, ça a lieu tous les ans le dernier week-end de mai. Donc, cette année, ce sera le week-end
Le dernier week-end de mai, voilà.
Mais qui déborde en juin, cette année, voilà, jusqu'au 2 juin. Et nous, dans notre jardin partagé, au Poireau Agile, on fait une exposition photo d'insectes pollinisateurs. Voilà, on sort des grandes photos très grossies qui ont toutes été prises dans cet espace. Un insecte différent sur une fleur différente pour chaque photo, et les gens viennent admirer, essayer de les retrouver dans le jardin en vrai, voilà. Et c'est toujours très ludique à la fois pour les enfants et les adultes.
Alors cette manifestation, vous l'avez bien compris, s'adresse aussi bien aux férus de botanique, aux jardiniers du dimanche ou aux simples curieux. Tout simplement, allez, vous sortez le dernier week-end du mois de mai, vous descendez dans vos jardins près de chez vous, vous venez ici si vous le souhaitez, hein, dans le 10e arrondissement, et vous participerez à Rendez-vous au jardin, car c'est un vrai rendez-vous qui s'y déroule. Voilà, c'est l'occasion de mettre en valeur les actions des propriétaires de jardins publics, privés, collectifs, partagés, ouvriers, enfin, ce qu'on veut, c'est pas grave, et ça permet justement de découvrir la richesse, la richesse de la nature, tout simplement. Alors, le peintre Claude Monet déclare un jour « Mon jardin est ma plus belle œuvre d'art ». Et ces cinq sens, il a donc parlé des cinq sens, vous en avez parlé Françoise, là. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, tout y est dans cette manifestation, c'est très clair. Alors, on va commencer par la vue, hein, le truc le plus simple, devant moi, devant vous, là actuellement, pendant cette émission, on a une vue magnifique, bon, des rosiers, des tas d'essences, des tas d'arbres, de massifs, etc. On va aller faire un petit tour d'ailleurs après. Là, on reste encore assis encore quelques secondes, mais on va y aller. Alors, c'est aussi l'ouïe. Mais oui, le jardin, c'est l'ouïe. Racontez-nous ce qu'on entend.
On entend effectivement beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux, une très grande variété d'oiseaux, plus grande que dans un jardin public où il n'y aura que les massifs cultivés et les pelouses. On entend aussi un peu de bruit de la rue et on entend surtout les gens s'extasier parce qu'ils sont très contents de profiter de cet espace. Voilà.
Je rappelle que nous sommes donc dans le 10e arrondissement de Paris, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, avec vous Françoise Pitras, membre du collectif Ville, Main et Jardin. Voilà. Du nom du jardin Villemain, les jeux de mots. Vous m'avez dit, en préparant cette émission, on aime bien les jeux de mots, nous, les gens des jardins.
Oui, les gens des jardins partagés, parce qu'en fait, les jardins partagés, c'est des créations collectives qui, comme je l'ai raconté pour le nôtre, ont souvent lieu sur des terrains qui ont constitué des vraies luttes d'habitants. Et donc, trouver le nom, des fois... le nom porte sur la lutte en question, mais c'est vrai que très souvent, c'est des jeux de mots, quoi.
Avant de continuer ensemble, j'aimerais, si vous me le permettez, Françoise Pitras, faire un petit coucou pour ceux qui nous abritent, effectivement, je voudrais saluer les équipes de la Ligue de l'Enseignement Fédération de Paris, car c'est dans un de ces centres Paris Anime, animés par la Ligue de l'Enseignement, que sont installés les studios et la régie qui nous aident à réaliser en ce moment cette émission. Voilà, je tenais à le préciser et comme chaque semaine, à montrer l'importance du collectif. Alors, vous restez bien avec nous, car bien sûr, on a appris déjà plein de choses depuis ce début d'émission, mais on va faire une petite pause musicale. Hein. Comme ça, on va aller se dégourdir les jambes, on va aller visiter le jardin. Françoise Pitras, donc, on est tout près d'une petite pause musicale et au détour de mes écoutes, j'ai découvert une artiste, tout à fait singulière. Au bout de ses doigts, elle a quelque chose d'envoûtant. Chaque note possède une légèreté gracieuse. Tout semble danser quand on l'écoute. Elle raconte bien sûr, comme beaucoup de chanteuses, des histoires. Cette artiste d'origine serbe et canadienne n'a pas peur des extrêmes puisqu'elle vit harmonieusement son amour de la musique des années 50-70 tout en s'intéressant à la mythologie. Elle fonctionne à l'instinct. Elle s'appelle Dana Gavinsky. La chanson qui va suivre a pour titre Ribbon. C'est sur Aligre FM. On y va.
Aligre FM 93.1.
bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Sur Aligre, dans l'étincelle dans la ville, on vient d'écouter Ribon, on le prononce comme on veut, interprété par Dana Gavinsky, et de retour avec vous, Françoise Pitras. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Ville, Main, Jardin. Nous sommes dans le jardin partagé dont vous vous occupez avec votre collectif situé 4 rue des Récollets, dans le 10e arrondissement de Paris. Et pour qu'on y voit un peu plus clair, c'est pas loin du canal Saint-Martin, c'est pas loin de la gare de l'Est. Et là, je me retrouve au centre de l'œil, non pas d'un cyclone, mais de l'œil d'un jardin, celui que vous avez en gestion avec toutes les autres structures qui viennent vous rendre visite. On est juste au milieu, alors racontez-nous.
Alors, le paysagiste de la ville de Paris qui a dessiné ce jardin, l'a dessiné en rond, d'une surface égale au kiosque à musique que nous avons aussi à l'intérieur du jardin Villemain.
Les kiosques à musique à Paris qui sont aussi des monuments de l'architecture. Hein. Il y en a encore, heureusement, qui ont été conservés.
Voilà, alors donc c'est la même surface que le kiosque à musique. Le kiosque à musique est en hauteur et le jardin est en profondeur, on va dire. Et donc au centre, il y a une partie empierrée qui permet de faire des animations, des pique-niques, toutes sortes d'activités. Les danseurs aiment beaucoup cet endroit particulièrement. Et surtout, le paysagiste a mis une fontaine avec, en laissant la possibilité que l'eau qui s'écoule de cette fontaine au centre du rond puisse stagner et donc constituer à la fois un réservoir pour les oiseaux et une mare qui leur permet de se baigner. Donc boire et se baigner pour les oiseaux, c'est très important. Et donc, nous l'appelons la mare aux oiseaux. Voilà, et elle est toujours en eau, été comme hiver.
Alors, juste avant cette pause musicale, vous en avez dit deux mots de façon subrepticement. Le poireau agile, Françoise Pitras, c'est quoi le poireau agile?
Alors, c'est le nom du jardin partagé. L'association, effectivement, s'appelle Ville Main Jardin. Mais le jardin partagé, qui est l'un des axes de cette association, s'appelle le poireau agile, du nom du premier président de l'association, qui s'appelait Gilles Roux. Qui était, lui, à l'origine de la réflexion avec la ville de Paris sur la charte main verte, qui est le texte qui gère, qui résonne l'activité dans les jardins partagés, on va dire. Et donc, Gilles Roux a été le président fondateur de l'association Ville Main Jardin.
Et donc, le poireau à Gilles. Vous aimez bien les jeux de mots, c'est ce que vous nous avez dit.
Oui. Donc, le poireau agile.
Alors, on continue cette petite visite avec vous. Vous nous avez décrit, évidemment, cet œil, cet espace circulaire. Et devant nous, j'ai un petit bac, très bas, et avec une grosse étiquette sur laquelle il y a marqué « École douce, maternelle, beau repère ». Et avec une petite mention « Merci de respecter cet espace de culture ». Racontez-nous.
Donc, quand les classes d'école, quand les maîtres ou les animateurs ou etc. de centres de loisirs se motivent un peu pour sortir et venir jusqu'au jardin avec le groupe d'enfants, nous les accueillons toujours très volontiers. Des bénévoles de l'association se chargent de cet accueil, sont présents sur le site quand les enfants arrivent et donc leur permettent, s'ils le désirent, s'ils viennent juste pour visiter, ben, ils font une visite où on les fait sentir, regarder, observer, toucher, etc. Et s'ils veulent…
Sauf les orties.
On leur dit qu'il ne faut pas toucher ce qu'ils ne connaissent pas. On leur donne le nom des plantes, on leur donne le nom des fleurs, etc. Suivant les âges, ils retiennent tout ce qu'ils peuvent, mais vraiment beaucoup quelquefois. Et donc, on leur dit qu'il ne faut pas toucher ceux qui ne connaissent pas. Et s'ils touchent et que c'est des orties, ben c'est aussi très pédagogique parce qu'ils ont compris pourquoi on leur disait ça. Et donc, on leur explique que les feuilles d'ortie, ça pique, mais que ce n'est pas grave, et que donc on en fait plein de choses très intéressantes dans le jardin. Et donc que c'est bénéfique à la terre, que c'est bénéfique aussi parce qu'on en fait des soupes d'ortie, des salades d'ortie, et aussi il y en a qui sont capables d'en faire du shampoing à l'ortie, et d'autres qui en font du purin d'ortie qui permet d'éloigner les insectes sans utiliser de produits nocifs. Et donc c'est une richesse pour n'importe quel jardin d'avoir des orties et d'autres plantes sauvages et d'autres mauvaises herbes, comme on disait autrefois, qui sont tout à fait nécessaires, surtout dans un jardin à Paris où elles sont très rares.
Un travail pédagogique que vous menez avec ce jardin. Emmenez-moi, François, si vous le permettez. Alors, des petits chemins, et vous allez nous raconter, parce que en fait, autour de cet œil, plein de petits chemins. Racontez-nous et venez, on va entrer.
Alors voilà. Alors donc, effectivement, il y a des tout petits chemins qui ne sont pas normalement. Ils étaient engazonnés, mais bon, comme ils sont très piétinés, il y a longtemps qu'il n'y a plus de gazon. Mais c'est pas grave. Tous les enfants et les adultes savent que c'est l'endroit où ils peuvent passer, où rien n'est planté, où ils n'écraseront rien. Et donc, ils sillonnent comme ça l'intérieur de la surface du cercle. De façon à la fois très ludique pour les tout-petits enfants et de façon attractive pour les adultes et pour les vieilles personnes, de façon à pouvoir regarder de plus près la diversité des espèces plantées, la diversité de ce qui est récolté, de façon à pouvoir trouver les légumes sous les fleurs, sous les fruits, sous les... Voilà. Et donc.
Et tout ça en toute sécurité, bien sûr.
En toute sécurité, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que si on vient avec des enfants, c'est des petits labyrinthes de végétation, ça ne risque rien.
Exactement. Et par exemple, là, vous voyez une parcelle où on a l'impression qu'il y a très peu de choses plantées. C'est parce que c'est une parcelle qu'on a confiée à une association qui s'appelle D'enfants autistes. Donc le jardinage lui-même est très compliqué avec ce genre de public. Mais par contre. Ils sont bien protégés, ils sont dans un espace qu'ils reconnaissent quand ils viennent, ils peuvent toucher la terre, ils peuvent toucher les végétaux, ils peuvent se retrouver dans cet espace, s'adosser à un tronc d'arbre pour se reposer, etc. Et ça leur fait un bien fou, paraît-il, d'après le personnel soignant qui s'occupe de ces enfants. Donc effectivement, ce qu'on voit dans le jardin, c'est un truc un peu bizarre, pas très cultivé, mais c'est un endroit de ressourcement pour cette population d'enfants autistes.
Que du bonheur depuis que j'ai démarré cette émission avec vous, Françoise Pitras. Et alors, vous nous avez parlé tout à l'heure des insectes. Je sais que c'est bien sûr, vous nous l'avez bien raconté, ça fait partie de la nature, ça fait partie de sa vie en osmose avec toute cette végétation. Et je sais que vous avez une passion pour les ruches et que vous aviez un rucher pédagogique situé à l'hôpital Saint-Louis. Alors, je profite de cette rencontre de tous les deux parce que il vous arrivait une petite mésaventure. On n'entrera pas dans le détail, mais là, je crois que vous avez un petit appel à lancer.
Oui, parce qu'effectivement, l'association Villemain Jardin a porté comme troisième projet de l'association l'installation de ruches pédagogiques dans le 10e arrondissement. Et nous avons conventionné avec l'hôpital Saint-Louis, qui est juste de l'autre côté du canal, donc très près du jardin Villemain, pour un espace pour y installer des abeilles à des fins de ruchers pédagogiques, c'est-à-dire comme le jardin, y recevoir les classes d'école et les groupes d'adultes susceptibles de se former à l'apiculture. Donc pédagogique pour les enfants, pour les classes d'école, et pédagogique aussi pour les adultes, pour pouvoir se former à l'élevage des abeilles. Ce projet a vu le jour en 2010, nous y avons reçu les classes d'école de façon très agréable dans un endroit très sécurisé, très réglementé aussi puisque nous étions à l'intérieur d'un hôpital public et en bonne entente avec la PHP et l'hôpital Saint-Louis. Et donc, nous y avons reçu les classes d'école et les adultes voulant se former à l'apiculture de 2010 à 2023. Le 6 avril 2023, un des salariés de la PHP travaillant à l'hôpital Saint-Louis est parti à la fois avec les ruches, les abeilles et tout le matériel apicole. Donc, nous n'avions plus les moyens de remplir les missions d'accueil et de pédagogie dans ce lieu. Et donc, de fait, le partenariat s'est arrêté net. Voilà, nous avons fait un communiqué de presse pour signaler à la fois le vol des ruches, pour que c'était le premier vol de ruches à Paris. Donc, nous, ce que demande l'association Vivement Jardin, c'est d'abord que le ou les coupables de ce délit soient punis conformément à la loi, c'est-à-dire avec l'interdiction d'exercer l'apiculture et surtout l'interdiction de vendre le miel produit. Et puis ensuite aussi de façon à alerter les pouvoirs publics sur la forte demande des classes d'école pour aller faire des visites dans des ruchers. Et il y a seulement 3 ruchers pédagogiques à l'intérieur de Paris et donc ce n'est pas suffisant pour recevoir toutes les demandes de classes d'école et de maîtres qui font énormément pour la défense des abeilles. Et c'est un sujet, un enjeu particulièrement important pour le 21e siècle.
Et vous faites bien de le préciser, car sans abeilles, eh bien, on raconte qu'il n'y aurait plus de vie sur Terre. C'est quand même pas banal comme histoire. Ces abeilles qui nous fascinent tous, petits et grands, bien sûr à cause du miel, mais pas que ça. Et la demande, elle est là, vous l'avez raconté. Les écoles sont friandes pour aller à la rencontre des ruchers, des ruches. Alors, il vous faut en fait une ruche, il vous faut un apiculteur. Hein, on lance l'appel et on voit ce que ça donne.
Non, parce que nous, on ne s'insérera plus dans ce projet. Par contre, j'engage effectivement tous ceux qui le veulent à monter des projets similaires. C'est très, très, très productif. C'est très sensibilisateur pour tout public, à la fois les petits et les grands aussi. Et c'est surtout très urgent pour la suite de la vie en ville, puisque actuellement les abeilles vivent mieux, et tous les insectes pollinisateurs d'ailleurs, vivent mieux en ville qu'à la campagne. Et que la demande est très forte pour sauver ces insectes.
Ils vivent mieux parce qu'il y a moins de prédateurs ?
Pas seulement, ils vivent mieux en ville parce qu'il y a une plus grande diversité d'espèces plantées. À la campagne, c'est souvent de la monoculture, donc une fois que la fleur est passée, ils n'ont plus rien à manger. Bon, voilà. Ils vivent mieux aussi parce qu'il y a moins de produits nocifs. À la campagne, comme vous le savez, il y a encore l'utilisation de pas mal de pesticides, d'autres choses qui tuent les abeilles. Et donc, ils vivent mieux aussi parce qu'ils sont dans des espaces où ils se fatiguent moins. À la campagne, ils doivent faire plusieurs kilomètres, des centaines même des fois, pour trouver de la nourriture et pour trouver de quoi nourrir la ruche. En ville, ils sont devant la télé avec leur pop-corn. Quoi.
Voilà, devant la télé avec leur pop-corn. Si vous me le permettez, Françoise Pitras, on va faire une deuxième petite pause très courte avant d'entamer la fin de cette émission. Alors, ça tombe bien, ici, il y a beaucoup de passants, beaucoup de passantes, beaucoup de passages. Et la chanson que l'on va passer s'appelle « Les passantes ». Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle a été évidemment écrite par un garçon, mais la version que je vous propose, elle est chantée par des filles. Allez, on écoute « Les passantes ». Vous verrez, c'est formidablement bien chanté.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui reste s'évanouir. Mettons l'asphalte silhouette et ses gracieuses effluettes qu'on n'en demeurait pas. À la l'espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus.
Et sur Alig, on vient d'écouter Les Passantes, une chanson écrite par Georges Brassens, et on continue avec vous, Françoise Pitras. Alors, vous êtes très organisée ici, vous avez mis l'accent sur le travail collectif, sur le partage, sur ces écoles qui viennent vous voir, sur tous ces centres qui viennent vous rendre visite. On a évoqué, bien sûr, l'importance des insectes. Bien sûr, vous êtes aussi très sollicité parce qu'on vous demande conseil, vous en avez parlé en début d'émission. C'est aussi un travail de partage, quelque part.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour les insectes, je dois vous dire qu'on avait travaillé avec le Muséum d'Histoire Naturelle au tout début, dans les premières années de l'association. Je ne me souviens plus exactement, mais entre 2008 et 2007 et 2010, mettons. Et pour documenter justement, sur un tout petit espace parisien, à combien d'espèces d'insectes pollinisateurs on pouvait arriver en plantant une variété très très variées, très très diverses d'espèces plantées. Et donc c'est Gilles Roux, le premier président fondateur de l'association, qui a photographié et documenté chaque espèce d'insecte, et au bout de quelques mois il en était à 350 espèces différentes. Donc le Muséum d'Histoire Naturelle était assez content parce que effectivement, on pouvait prouver comme ça que sur un tout petit espace, on pouvait faire revenir une très grande diversité d'insectes pollinisateurs.
Il y en a du monde dans nos jardins, on ne s'en rend pas compte, c'est énorme. Alors, du monde qui vient vous rendre visite, il y en a aussi. On l'a évoqué durant le début de cette émission, au cours de cette émission, mais vous participez à de nombreux événements. On en a aussi évoqué un, Rendez-vous au jardin, mais il y en a d'autres. J'ai noté alors la semaine du développement durable, la semaine du goût, la fête des jardins, le forum des associations, enfin vous êtes partout.
Et ce week-end, la fête de la nature, qui est une fête nationale au moins, peut-être internationale, je ne sais même pas, et à laquelle on participe aussi depuis des années. Et donc, on fait une animation samedi et une animation dimanche pour cette fête de la nature dans deux jardins partagés différents du 10e arrondissement.
Le deuxième se situe où ?
Alors, le deuxième est très particulier. Il se situe sur les voies de chemin de fer entre la gare de l'Est et la gare du Nord.
L'ancienne petite ceinture ?
Pas du tout.
C'est juste avant, alors ?
Non, c'est entre la gare de l'Est et la gare du Nord, en haut des escaliers historiques. Et la rue s'appelle, c'est une rue piétonne, elle s'appelle rue d'Alsace. Et il est sur le toit d'un hôtel de voyageurs qui se trouve au ras de la gare de l'Est.
Qu'est-ce qu'on peut donner comme adresse ou comme station de métro pour que les gens se repèrent après la bêtise que je viens de raconter ?
Alors, les stations de métro, c'est gare de l'Est ou gare du Nord, et la rue, c'est l'entrée du jardin, elle se fait par la rue d'Alsace.
Alors, on rappelle l'événement, ça s'appelle comment ?
Alors, l'événement de ça s'appelle la fête de la nature, et l'événement de demain dans ce jardin-là, c'est, le jardin s'appelle Marielle Franco, du nom d'une Brésilienne aussi militante, voilà. Et donc, l'événement s'appelle bien dans mon jardin.
Eh bien, tous rendez-vous, de toute façon, dans votre jardin, on peut y aller toute l'année, rue des Récollets.
Exactement.
Alors, il y a quand même des heures d'ouverture.
Ah oui, les heures d'ouverture, c'est simple, c'est du lever du soleil au coucher du soleil, donc ça varie suivant les jours de l'année, et donc c'est en ça aussi que le jardin est un formidable vecteur de bien-être, parce que tout d'un coup on s'aperçoit que les jours rallongent ou les jours raccourcissent.
Voilà, et je voulais préciser, parce que ça m'avait un peu échappé, le morceau écrit par Georges Brassens c'était interprété par les copines. Voilà, il faut quand même leur rendre hommage. Alors, je sens que l'étincelle dans la ville va bientôt se terminer. Je sens que la petite nappe musicale Christo Redemptor, interprétée par Donald Byrd, ne va pas tarder à démarrer. Mais avant de nous quitter complètement, je voudrais aussi remercier tous les membres du collectif qui travaillent sur l'organisation et la gestion d'Aligre FM et tous les bénévoles qui, au quotidien, sont en action. Nadia, Bruno, Jean-Marc, Gilles, Pascal, Étienne, Douglas, Rita et tous les autres. Et si j'en oublie certains, ne m'en voulez pas. Merci aussi à toute l'équipe technique, à la régie Final Son. Merci Thomas, merci Enrico, merci, j'ai oublié, Armand, voilà, Célian. Ça s'est bien passé ça, de votre côté, tout allait bien?
Oui, c'était super, merci. Ouais.
Voilà, c'est parfait. Sans oublier, bien sûr, l'équipe de production de l'Étincelle dans la ville, Stéphanie Malaret et Gaspard Proudhon, que je remercie et j'embrasse très fort. Voilà, l'Étincelle dans la ville, c'est une émission sociétale qui donne la parole et qui va à la rencontre d'initiatives de mouvements encore trop méconnus ou des systèmes imaginatifs qui méritent d'être mis en valeur. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec vous, Françoise Pitras. Merci beaucoup.
Merci à vous et à très bientôt. Alors.
Il se passe des choses, on l'a vu, énormément de choses. Moi, j'étais ravi. J'ai pris un bain de verdure ici aujourd'hui. On va se faire un petit plan sur l'histoire des ruches et des abeilles à Paris. Hein. Vous êtes d'accord?
Très volontiers.
Voilà, on consacrera une émission à ce sujet parce que c'est très important. Et je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Je rappelle que l'adresse de ce jardin partagé, ces 4 rues des Récollets à Paris dans le 10e arrondissement, donc à côté de la gare de l'Est. On n'a pas parlé du cabanon. Qu'est-ce qui se passe dans votre cabanon?
Alors, c'est une cabane à outils comme dans n'importe quel jardin. Alors, on y stocke bien sûr les outils, les arrosoirs. Très important, le cahier de liaison sur lequel on marque chaque fois qu'on fait quelque chose pour que les autres sachent ce qu'on a fait, parce que c'est ça le collectif aussi. Et on y échange beaucoup d'informations sur ce cahier de liaison. Et surtout, il y a une réserve de graines, c'est-à-dire que quand on récolte les graines, ben on les met dans des petits pots, on les met dans le cabanon et on les distribue à l'occasion d'animations ou d'activités diverses. Voilà, ça c'est la cabane à outils. Et derrière la cabane à outils, il y a un coin qui est plus spécifiquement potager, parce que sinon des légumes, on en trouve dans tout le jardin. Mais il y a une équipe qui préfère faire que des légumes de saison, et donc qui fonctionne en collectif aussi, dans un tout petit espace qui fait 3 mètres carrés, je crois, et qui est derrière la cabane à outils, où il y a aussi une zone de compostage collectif complètement débordée par son succès, parce qu'énormément de jeunes, maintenant, désirent mieux gérer leurs déchets et apportent leurs épluchures de légumes et de fruits.
Et oui, le compostage, c'est important. Là, ça s'arrête. Françoise, on est à la fin de l'émission. Alors, une adresse mail pour l'étincelle dans la ville, c'est simple, c'est l'étincelledanslaville@gmail.com. Merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien. Et si on veut en savoir plus sur le jardin partagé, on vient vous voir ici, rue des Récollets, il n'y a pas plus simple. Bien sûr, je remercie tout le monde pour l'aide que vous nous avez apportée durant la réalisation de cette émission. Voilà, la saison, en un mot, hein, ça annonce bien pour les fruits, pour les légumes, pour les fleurs.
Oui, pour les fleurs, c'est très bien. Il a beaucoup plu, les légumes aussi. Mais bon, il y a des choses qui n'aiment pas l'eau, qui par contre viendront beaucoup plus tardivement ou mal. Enfin, bon.
Vous retrouvez
l'agriculture.
Vous pouvez retrouver cette émission chaque lundi à 9h et chaque vendredi à 20h sur votre poste de radio. Bien sûr, vous avez aussi le podcast sur le site d'Aligre. L'Étincelle, c'est sur Facebook, Instagram et YouTube. Je ne peux que vous inciter de bien rester à l'écoute pour la suite de nos programmes sur Aligre FM. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Et bien sûr, merci pour votre fidélité. Françoise Pitras, encore au revoir, allez, deuxième fois.
À bientôt.
Portez-vous bien. Aligre, ça fait plus de 43 ans que ça dure. Et l'étincelle dans la ville, c'est terminé.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.